que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé. Xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Recoñecémonos todas mulleres, no sentir do noso xa, oprimidas as mulleres, querémonos rebelar. Ergámonos, mulleres.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors, bonne année 2022. Voilà, c'est ma première émission pour 2022. Donc, je suis en train de vérifier tous les hauteurs de son. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Alors, pour commencer l'année avec un peu de baume au cœur, je vais commencer par des victoires féministes, une vingtaine de victoires féministes de l'année 2021. Alors, la manifestation pour le 25 novembre était une belle victoire, puisque à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous avons manifesté partout en France. À Paris, il y avait 50 000 femmes à crier « Nous sommes fortes, nous sommes fières et féministes et radicales et en colère ». Aux côtés de nombreuses associations, nous avons dénoncé toutes les violences masculines, les féminicides, les viols, la pédocriminalité, le système prostitueur et pornocriminel, l'inceste, le harcèlement sexuel, etc. Donc, je rappelle que toutes les associations féministes qui luttent contre les violences sexuelles luttent aussi, évidemment, contre le système prostitueur. Donc, en fait, ces victoires aussi sont recensées notamment par l'association Oser le féminisme. Et puis, j'en ai rajouté aussi certaines. Voilà. Alors, concernant la santé des femmes, une vaccination efficace contre le cancer du col de l'utérus. Une nouvelle étude de Cancer Research UK montre que le vaccin préventif contre le cancer du col de l'utérus réduit les risques de contracter la maladie de presque 90%. Après le cancer du sein et du côlon, c'est le troisième cancer qui touche le plus de femmes dans le monde entier. Voilà une bonne nouvelle qui donne espoir pour complètement éliminer cette maladie dans le futur. Alors, concernant toujours la santé des femmes, un peu d'espoir pour l'endométriose. Des scientifiques d'Oxford ont identifié la mutation d'un gène qui serait à l'origine des formes graves d'endométriose. L'endométriose touche presque une femme sur 10. Cependant, il n'existe aucun traitement définitif de la maladie. Le traitement hormonal est le plus courant afin d'empêcher l'apparition des règles et donc de priver l'organisme de l'estrogène qui va nourrir les cellules d'endomètre. Cette découverte ouvre donc la possibilité d'un futur traitement à venir. La santé des femmes est bien trop souvent oubliée, laissée de côté. Les maladies qui leur sont spécifiques bénéficient bien souvent de peu de recherches, de peu de fonds pour développer des traitements et sont trop souvent ignorées. Il est important de réaliser que la douleur des femmes n'est pas secondaire par rapport à celle des hommes. Alors toujours dans le domaine de la santé, de la sexualité, il y a une découverte récente là sur le clitoris. Et c'est une première. Plus de 15 ans après une découverte similaire pour les parties génitales masculines, une équipe de chercheurs allemands est parvenue à découvrir avec précision à quelle zone du cerveau était connecté le clitoris. Leur étude a été publiée le 20 décembre dans la revue scientifique J Neurochi et montre la localisation exacte de l'aire du cerveau activée lors d'une stimulation du clitoris. Lorsqu'une partie du corps est touchée, une activité neuronale est déclenchée dans le cortex somatosensoriel. Chaque partie du corps correspond en effet à une aire différente du cerveau, y formant une sorte de carte corporelle. Mais jusqu'ici, l'endroit précis dédié aux organes génitaux féminins restait sujet à débat. Cette découverte marque une avancée dans la connaissance du plaisir féminin, déjà très à la traîne. Il faut rappeler qu'il a fallu attendre 1998, donc c'est vraiment tout récent, pour connaître l'anatomie exacte du clitoris grâce à la dissection, puis à une IRM réalisée en 2005 seulement. Et l'anatomie complète n'a été représentée correctement dans un manuel scolaire français qu'en 2017. Mais cette avancée pourrait surtout aider à développer à l'avenir de meilleurs traitements pour les femmes souffrant de troubles sexuels ou encore pour les victimes de violences sexuelles, notamment de mutilations génitales. Nous sommes en 2021. Il était temps qu'on s'intéresse aux spécificités de l'anatomie féminine. C'est quand même dingue de noter qu'effectivement notre anatomie nous était inconnue, n'intéressait pas du tout la recherche scientifique jusqu'à aujourd'hui. L'étude ne porte que sur 20 femmes, ce n'est qu'un début. Il va falloir élargir sur un échantillon plus grand pour en apprendre davantage encore. Les recherches sur la santé et la sexualité féminine sont faibles et tardives par rapport aux hommes. Cette découverte est cruciale pour soigner les femmes et en apprendre davantage sur l'anatomie et la sexualité féminine. Voilà, à propos de sexualité féminine, Oser le féminisme a sorti récemment aussi un guide d'éducation sexuelle signé Les Frangines. Petit guide pour une sexualité féministe et épanouie, c'est sorti en septembre 2021. C'est un projet Soror qui a été réalisé par le collectif des Frangines qui est un groupe de jeunes femmes d'Oser le féminisme et qui souhaitent transmettre leurs réflexions sur les sexualités des femmes. Donc il y a dans ce guide des témoignages sur nos corps, l'anatomie des femmes, la déconstruction des mythes sexuels tels que celui du bon coup ou de la perte de la virginité, des explications de concepts clés du féminisme, le tout illustré par une artiste. Alors, autre victoire, ou en tout cas bonne nouvelle concernant santé et sexualité des femmes, la contraception gratuite pour les Françaises de moins de 25 ans. Dès janvier 2022, la contraception sera gratuite pour les Françaises, donc on y est, donc en janvier, de moins de 25 ans. 3 millions de jeunes femmes sont concernées par cette mesure. Cette nouvelle est certes une avancée, car elle facilitera le quotidien de nombreuses femmes. Cependant, on peut regretter qu'elle renforce l'idée que la charge contraceptive repose uniquement sur les filles et les femmes. En effet, aucune mesure concernant la contraception masculine n'a été jamais annoncée. Donc c'est bien que cette contraception soit gratuite pour les moins de 25 ans, mais on pourrait aussi espérer qu'elle soit gratuite toute la vie. Mais c'est déjà un petit progrès. Autre bonne nouvelle, des protections périodiques gratuites pour les étudiantes. Grâce à des distributeurs déployés dans l'ensemble des campus universitaires, les étudiantes françaises commencent à avoir un accès gratuit et facilité aux protections dont elles ont besoin. C'est une mesure importante pour lutter contre la précarité menstruelle et la précarité étudiante. Cependant, il faut voir comment elle se traduira réellement dans les campus français. Et pareil, bien, c'est une bonne avancée, mais on peut espérer aussi que les protections périodiques deviennent gratuites pour toutes les femmes et partout. Alors, concernant la culture, cinéma, TV, bonne nouvelle sur... une petite victoire, on va dire. Le cinéma commence enfin à récompenser les femmes. À la cérémonie des Oscars 2021, Chloé Zhao a reçu l'Oscar de la meilleure réalisatrice pour son film Nomadland, après Catherine Bigelow en 2010. Elle est seulement la deuxième femme à recevoir cette prestigieuse récompense. De l'autre côté de l'Atlantique, la Française Julia Ducournau est aussi la seconde femme à remporter la Palme d'Or du Festival de Cannes pour son film Titan. Elle est la première femme à obtenir ce prix seule. La réalisatrice avait déjà marqué le monde du 7e art avec son premier long métrage, Grave, en 2017. Donc 4 ans après le mouvement MeToo, le monde du cinéma évolue doucement et les femmes prennent peu à peu la place qui leur est due dans les cérémonies les plus prestigieuses. On peut aussi saluer au niveau TV la série H24, qui dénonce brillamment les violences masculines. Donc c'est une mini-série que vous avez dû voir sur, présente sur Arte, avec 24 autrices, 24 actrices et 10 réalisatrices qui dénoncent les violences contre les femmes heure par heure durant une journée. C'est une série qui est intelligente, écrite dans différentes langues et qui montre toute forme de violence masculine, du harcèlement de rue à la lesbophobie, de l'insulte sexiste à la violence conjugale, de l'agression sexuelle au suicide forcé. H24 dénonce ces violences à travers des monologues puissants de femmes. À voir et à méditer. Alors, autre petite victoire, Joséphine Baker est entrée au Panthéon. Cette artiste de music hall franco-américaine, figure de la résistance française, de la lutte antiraciste, est la première femme noire à faire son entrée au Panthéon. Elle est la sixième femme à être panthéonisée après Sophie Berthelot, Marie Curie, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle, Antonioz et Simone Veil. C'est un événement important afin d'établir officiellement Joséphine Baker dans notre histoire commune. Alors, concernant les violences machistes faites aux femmes, le 3919 est disponible sans interruption désormais. Donc le 3919, c'est la ligne d'écoute nationale dédiée aux femmes victimes de violences, qui sera donc enfin disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est un dispositif plus que nécessaire lorsqu'on sait que plus de 200 000 femmes sont victimes de violences chaque année en France. Gratuite et anonyme, la plateforme est joignable sans interruption depuis le 30 août dernier, donc 30 août 2021. Et pour les femmes vivant outre-mer, ces nouveaux horaires sont également un soulagement immense, puisqu'ils peuvent s'adapter au décalage horaire pour les Réunionnaises, par exemple, troisième département français, où l'on dénombre le plus de violences conjugales, avec 15% de femmes victimes de leur conjoint. Alors, le Parlement islandais est le meilleur élève européen en matière de parité. Donc, on peut saluer. Fin septembre, l'Islande est devenue le pays européen le mieux classé en matière de parité parlementaire, avec 47,6% des sièges obtenus par des femmes. À 3 sièges près, les femmes étaient même en majorité. Ce sera pour la prochaine fois. Ce n'est pas la première fois que ce pays nordique est en avance en termes d'égalité femmes-hommes. C'est la première nation à avoir élu démocratiquement une chef d'État en 1980. De plus, depuis 2018, une loi impose aux employeurs et aux employeuses des entreprises de plus de 25 salariés de prouver que si une femme est moins payée qu'un homme à poste égal, cela n'est pas de la discrimination sexuelle. La France pourrait bien s'en inspirer. Alors maintenant, concernant le sport féminin, quelques bonnes nouvelles. Les handballeuses norvégiennes ont dit non au bikini en juillet dernier. Elles se sont vues sanctionner alors d'une amende de 1 500 € par la commission de discipline de la Fédération européenne de handball pour avoir porté un short plutôt qu'un bas de bikini lors d'une compétition. Cette sanction ouvertement sexiste a heureusement fait polémique. Et du coup, au début novembre, la Fédération internationale de handball a finalement modifié son règlement permettant aux joueuses de handball de plage de porter des shorts. Le contrôle vestimentaire n'a cependant pas totalement disparu, puisque les femmes porteront des shorts, mais des shorts serrés, ce qui n'est pas une obligation pour leur homologue masculin. Alors, lors des championnats d'Europe de gymnastique en avril dernier, dans la même idée, la gymnaste allemande Sarah Voss a décidé de porter un justaucorps long, pour remplacer le traditionnel juste au corps échancré. Elle voulait simplement se sentir bien dans sa peau. Et ce choix a résonné pour plusieurs de ses coéquipières qui ont suivi le mouvement. Cela a permis aussi donc, de dénoncer la sexualisation des corps des gymnastes. Donc à ce propos, je rajouterai... ce que Oser le féminisme ne signale pas, donc, c'est que effectivement, le corps des sportives n'est pas une marchandise, ne doit pas être sexualisé comme ça, et n'est pas non plus un étendard politico-religieux. Et donc, grâce à notamment à la Ligue internationale droits des femmes et à Regard de femmes, ces associations se mobilisent pour que la conception patriarcale du corps des femmes s'applique ne s'applique pas sur les tenues sportives des femmes. Donc sur exhibition, comme on vient de le voir, donc avec des tenues complètement inadéquates, enfin qui rendent les femmes mal à l'aise et ou dissimulation imposée en fait, et ça revient au même en fait, à la seule aune du regard masculin. En effet, à l'occasion des Jeux de Rio en 2016, il y a eu un lien qui peut être fait entre ces deux situations. Trop couvrir le corps des femmes sous des prétextes religieux ou trop le dénuder pour des motifs commerciaux traduit le même mépris des femmes qui sont dans les deux cas considérées comme objets sexuels et non comme sportives de plein droit. Et cela revient à vider le sport de sa valeur émancipatrice et universelle. Donc en fait ce qui est dénoncé là, c'est que le Comité international olympique, le CIO, si vous n'êtes pas au courant, eh bien accepte sans amende ni aucune forme de sanction ou de rappel au règlement ségrégationnistes islamistes qui, outre leur sexisme tout aussi épais, contreviennent à des impératifs sportifs ainsi qu'à une bonne règle qui existe pourtant et qui donc n'est même pas respectée, c'est la règle 50.2 et le principe 6 de la charte olympique, qui est une règle de neutralité. Voilà, donc en fait le CIO ne respecte même pas sa propre charte quand il s'agit des femmes. Et on peut se féliciter que des athlètes se révoltent contre ces tenues qui leur sont imposées. Et donc, il faut continuer à dénoncer. Donc, je vous redis que c'est notamment la Ligue internationale des droits des femmes, avec sa présidente Annie Sugier, qui mène ce combat pour dénoncer les instances sportives qui, au nom d'une vision compassionnelle et discriminatoire du droit des femmes, acceptent que l'uniforme islamiste s'affiche dans le stade olympique alors qu'il bafoue la règle de neutralité et légitime l'apartheid sexuel, dont il est la matérialisation concrète. Voilà. Donc je rappelle cela, j'en avais parlé aussi à ce moment-là, dans mes anciens podcasts. Donc revenons sur les bonnes nouvelles. Par rapport aux Jeux Olympiques 2021, il semblerait qu'ils seront les plus paritaires de l'histoire. À chaque édition, les JO s'améliorent en matière de parité et cette année, ils la respectaient presque, avec 48,8% d'athlètes féminines, un nombre inédit, de quoi espérer que la barre des 50% soit enfin atteinte aux JO 2024 à Paris. Il y a eu aussi une augmentation des épreuves mixtes. Parmi les 339 épreuves, 18 étaient mixtes, soit 9 de plus. Voilà, Alors, concernant l'IVG, il y a eu certains progrès. Donc, l'IVG a été légalisée à San Marino, en Italie, et au Mexique. Donc, San Marino, enfin légalisé, c'est une minuscule république au milieu de l'Italie, qui a enfin voté oui à 77,3% lors d'un référendum afin de légaliser l'avortement jusqu'à 12 semaines de grossesse. Il faut savoir que cette enclave est à majorité catholique et donc ce vote est historique. Au Mexique, l'IVG est enfin décriminalisée. Depuis donc début septembre, la Cour suprême mexicaine a déclaré inconstitutionnelle la criminalisation de l'avortement à l'unanimité. Certains États fédérés mexicains criminalisaient les femmes ayant recours à l'IVG, les exposant à des peines de prison. Les Mexicaines emprisonnées pourront donc être libérées et les femmes pourront maintenant avorter légalement partout dans ce pays, le Mexique. Alors au Bénin, le Bénin a légalisé l'avortement afin de sauver des vies. Après près de 200 décès par an suite à des avortements illégaux au Bénin, le gouvernement a légalisé l'IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse. L'IVG est toujours restreinte, voire interdite, dans de nombreux pays africains. Cette légalisation permettra aux femmes du Bénin d'avoir accès à des pratiques sécurisées. En Équateur et à Gibraltar, c'est pas encore légalisé, mais il y a des avancées. Donc à Gibraltar, l'avortement était illégal, sauf si la mère était en danger de mort. Suite à un référendum, les habitantes et habitants ont voté pour un assouplissement de cette loi. Maintenant, c'est légal jusqu'à 12 semaines si la santé mentale ou physique de la femme est en danger, notamment en cas de viol ou d'inceste, ou lorsque le fœtus présente des déficiences physiques mortelles. Dans les autres cas, ça n'est toujours pas légal. Donc les femmes n'ont quand même pas le droit de décider par elles-mêmes. L'Équateur dépénalise l'IVG en cas de viol, lui aussi, donc une décision historique dans ce pays d'Amérique latine, dans lequel l'IVG était seulement autorisée en cas d'handicap mental de la mère ou de grossesse dangereuse. Le Parlement équatorien avait rejeté cette loi en 2019. L'IVG est toujours interdite ou restreinte dans la majorité des pays d'Amérique latine. En France, la proposition de loi sur l'IVG est passée. Donc, la proposition de loi qui vise à renforcer le droit à l'avortement a été adoptée par les députés après des débats parfois houleux, mais à une large majorité. Donc, quatre des demandes des associations qui se sont mobilisées ont été acceptées. Donc, allongement du délai d'accès de 12 à 14 semaines. Possibilité pour les sages-femmes de pratiquer les IVG instrumentales. Suppression du délai de réflexion de 2 jours imposé suite à un entretien psychosocial obligatoire pour les mineurs, systématiquement proposé aux majeurs. Création d'un répertoire des professionnels et des structures pratiquant les IVG. Même si l'on peut déplorer que la clause de conscience spécifique qui continue à faire de l'avortement un acte médical à part ait été conservée, l'ensemble des autres avancées prévues dans le texte ont été adoptées. La proposition doit passer au Sénat en janvier, donc maintenant, il faut rester mobilisé. Alors, concernant les droits des personnes homosexuelles, la Suisse a dit oui suite à un référendum pour légaliser le mariage entre couples du même sexe. Donc la Suisse rejoint la trentaine de pays qui ont légalisé le mariage pour toutes et tous, la plupart étant des pays européens. Le Chili a lui aussi voté le mariage pour toutes et tous avec une large majorité. Donc c'est une décision historique qui ouvre la voie à l'adoption pour les couples homosexuels mariés, qui permettra la reconnaissance des enfants vivant au sein de familles homoparentales. Le Japon va aussi dans cette direction. Il a estimé que la non-reconnaissance du mariage entre couples du même sexe était anticonstitutionnelle. Cette décision vient à la suite d'une action en justice contre l'État menée par une dizaine de couples homosexuels. C'est une avancée importante. Donc peut-être que ça va arriver à la légalisation. Et le Botswana a dépénalisé l'homosexualité. Le président Yann Kirby a déclaré que la criminalisation de l'homosexualité violait les droits constitutionnels des personnes homosexuelles. Alors, MeToo, MeToo continue en 2021 pour dénoncer le sexisme et les violences qu'elles subissent, que les femmes subissent au quotidien. Dans la lignée, de nouveaux mouvements ont émergé pour dénoncer des violences dans différents milieux. Balance ton bar pour interpeller à propos des femmes droguées à leur insu dans les bars en France comme à l'international. MeToo politique, donc tout à l'heure je reviendrai sur cela. MeToo média, MeToo théâtre qui ont permis de dénoncer le harcèlement et les violences sexuelles présents dans les sphères politiques, médiatiques et le milieu du spectacle. MeToo amnésie a permis de libérer la parole des victimes de violences sexuelles pédocriminelles. MeToo inceste a permis à de nombreuses victimes de témoigner, de sortir du silence. Tous ces hashtags traduisent certes une certaine libération de la parole face aux multiples violences sexistes et sexuelles, mais surtout le fait que l'omerta commence à se fissurer un peu partout et que la parole des victimes est enfin entendue. Alors, pour poursuivre dans la thématique de la justice, une bonne nouvelle, en 2020, une première plainte pour suicide forcé. La France devient le premier État européen à reconnaître le suicide forcé, grâce au travail notamment de Yaël Melioul. Ces violences où un conjoint ou un ex exerce un harcèlement moral tel sur la victime qu'il pousse celle-ci à se suicider. La première plainte pour suicide forcé a été déposée par la famille d'Odile, qui s'est suicidée après 10 ans de violences psychologiques infligées par son mari. Cette loi doit maintenant être appliquée afin de ne pas laisser place à l'impunité des harceleurs. Donc voilà, affaire à suivre. Ensuite, au niveau de la justice, nous avons eu le procès Valérie Bacot, j'en ai longuement parlé, donc, qui avait été condamné malheureusement, mais qui a quand même été libéré. Suite à son procès, elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, comme elle avait déjà effectué un an de détention provisoire. Cela signifie qu'elle ne retournera pas en prison. Elle est donc libre. C'est une grande nouvelle. Cependant, nous aimerions que la justice reconnaisse que lorsque la société n'a laissé d'autre choix à une femme victime que de sauver sa propre vie en tuant son bourreau, celle-ci n'est pas coupable. Voilà, donc effectivement, donc Valérie Bacot, son histoire était vraiment abominable. Elle n'a pas été du tout protégée par la société. Je rappelle, donc, elle a été victime d'inceste. Son incesteur était son beau-père qui n'a pas été condamné, qui lui a fait, enfin, qui l'a obligé donc à être avec elle, à avoir des enfants, qui ensuite l'a prostituée. Et puis voilà, finalement, elle a réussi à s'en libérer en le tuant après des dizaines d'années de terreur et de souffrance inouïe. Donc, voilà, je continue au niveau de la justice. Démission, une bonne nouvelle, la démission d'Andrew Cuomo, la honte change de camp. L'ancien gouverneur de l'État de New York a démissionné à la suite d'une multitude d'accusations de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Ce dernier a tenté d'intimider ses accusatrices et de minimiser ses actes. Cependant, il a été contraint de démissionner après qu'il ait été lâché par ses soutiens politiques, y compris par le président Biden. Sa démission est une fissure de plus dans le mur de l'impunité. Alors en France, Georges Tron, notre célèbre Georges Tron, un maire condamné pour viol. Après 10 ans de procédure, le maire de Draveil a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme pour viol. C'est la première fois qu'une figure politique accusée de viol, bénéficiant du soutien d'autres masculinistes puissants tels que Dupont-Moretti, l'avocat de Tron, lorsque celui-ci avait été acquitté, est finalement reconnu coupable. C'est un grand pas. Depuis sa cellule, il a décidé de continuer à exercer ses fonctions de maire, rien que ça, considérant que sa détention n'était qu'un empêchement. À la suite des critiques de nombreuses associations féministes, et notamment d'une grosse pétition qui a récolté plus de 35 000 signatures, il a enfin démissionné à ses mandats de maire. Ouf. Toutefois, il reste conseiller municipal de Draveil. C'est une manœuvre complètement incroyable. Donc Georges Tron se moque ouvertement du monde. Alors, donc concernant l'inceste et la pédocriminalité, J'en avais parlé dans un de mes derniers podcasts du rapport de la CIVIS, qui est la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et qui sait très bien que ce rapport a été fait et il y a des avancées, au moins des très bonnes recommandations, des avancées considérables ont été faites en matière de lutte contre l'inceste, la protection des enfants et des mères. Grâce à ce rapport, au moins les recommandations, la commission a défini 3 axes importants. La suspension des droits de visite, d'hébergement et de l'autorité parentale du parent poursuivi. La suspension des poursuites pénales pour non-représentation d'enfants contre un parent lorsque l'autre parent est poursuivi. Et enfin, prévoir dans la loi le retrait systématique de l'autorité parentale en cas de condamnation d'un parent pour violence sexuelle incestueuse contre son enfant. Ces annonces sont importantes pour protéger les enfants agressés, ainsi que les mères accusées à tort. De même, le rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église a créé un énorme retentissement en révélant que 216 000 enfants ont été agressés sexuellement par des membres de l'Église depuis les années 1950. Le caractère systémique de ces agressions démontre l'importance de prendre des mesures pour lutter contre ce fléau. Alors, il faut noter que le Centre Bertine Auclair mène aussi une forte campagne contre l'inceste. Donc, c'est un centre francilien pour l'égalité femmes-hommes et qui lance une campagne à destination des jeunes, des professionnels, afin de combattre l'inceste. Et donc le centre notamment explique comment réagir, comment orienter les victimes ou signaler des situations d'inceste. Donc une victoire aussi, c'est que le terme pédocriminel s'impose dans le débat. Donc en 2021, ce terme pédocriminel s'est ancré dans le langage courant pour décrire les violences sexuelles à l'encontre des enfants. Les médias ont suivi ce mouvement initié par les associations d'aide aux victimes pour mettre en avant la notion de criminalité, plutôt que la notion d'amour insinuée dans le terme pédophilie. Ce changement lexical est crucial pour traiter ces affaires criminelles. En effet, il n'y a pas d'amour dans le viol. Alors, concernant la lutte contre la pornographie, au CHU Toulouse, les fresques pornographiques ont été décrochées. Après une longue mobilisation d'Oser le féminisme 31 et un référé contre les fresques pornographiques affichées dans le CHU de Purpan, qui représentent des femmes violentées, avilies et traitées comme des objets, la justice a déclaré que ces fresques étaient une atteinte à la dignité humaine. Celles-ci ont donc été décrochées. Maintenant, nous demandons à ce que toutes les fresques pornographiques et sexistes soient retirées de tous les réfectoires et internats des hôpitaux français, dans une lettre ouverte adressée à Olivier Véran. Donc cette action, je pense que vous pouvez la relayer. Alors ensuite, concernant le procès du porno, 4 acteurs de porno ont été mis en examen pour viol, la fin de l'impunité. Le procès du porno a débuté il y a tout juste un an, alors que le New York Times s'attaquait à la plateforme Pornhub. Oser le féminisme s'était alors mobilisé pour que soient jugées les entreprises françaises Jackie et Michel et Dorcel. Début novembre 2021, 4 acteurs de vidéos pornographiques ont été mis en examen pour viol dans l'affaire French Bookcake. C'est une première historique en France. Après l'incarcération de 2 producteurs très connus du milieu en octobre 2020 pour viol, proxénétisme aggravé et traite d'êtres humains, ces mises en examen constituent une étape fondamentale vers la fin de l'impunité pour l'industrie porno-criminelle tout entière. C'est toute l'organisation d'une industrie porno-criminelle qui est mise à nu, un vaste réseau de proxénétisme et de trafic d'êtres humains dans lequel les femmes subissent des viols prostitutionnels, des violences et des actes de torture. Il y a eu une enquête inédite du journal Le Monde en 4 parties. Donc 15 victimes portent plainte, plus de 50 victimes ont été identifiées par la police. Une quinzaine de femmes victimes du système porno-criminel ont donc porté plainte en novembre dernier pour agression sexuelle, viol, traite d'êtres humains, torture. Certaines d'entre elles cherchaient à obtenir justice depuis des années. Il ne peut y avoir de lutte contre les violences masculines sans inclure la lutte aux côtés des victimes du système porno-criminel. Notre société défend l'égalité et la réciprocité du désir. Le système porno-criminel n'y a pas sa place. Donc c'est très bien que Oser le féminisme soit porté partie civile et accompagne les... Je salue donc le travail de cette association pour accompagner les victimes, certaines des victimes qui ont été contactées par cette association, pour leur proposer notamment un accompagnement psychotraumatique, social ou juridique, afin qu'elles ne restent plus seules. Donc si vous voulez aider cela, vous pouvez aider en faisant par exemple un don à Oser le féminisme, puisque cela aidera les victimes. Donc je vais faire une pause musicale et puis je reviendrai sur cette affaire de lutte contre la pornocriminalité. Voilà, juste après la petite pause musicale. Donc je suis en train de chercher ce que je voulais mettre comme chanson. Bon, voilà, excusez-moi parce que j'ai balayé un petit peu ma playlist. Je n'en trouve plus. Bon, mais c'est pas grave, du coup je vais mettre une autre chanson. Voilà. Bon, ben je vous retrouve tout de suite donc avec cette chanson Enloc de Barout en occitan. Ça change un peu.
De traplura musel, son benguit suitaris, de traptura mapel, cette clava de montagne, podi cerca de lax, di mon pitre que saris. Laghi e mascados en sang, ausissi un murmur, in silenzi de bel, appena lu biel ben, buffant si mas aureia, besi pasche lu bruch, lu gran bruch lu bruchlon, d'un ancio embaral, sus un monde en question, magrada veo la morte, per sa tranquillitat, per son agata noble, si la mia vanitat, per pu de pin final, o clava in famusel, e tasta la nuit, commenta sa la zuel.
A cet âge, après, la loue et nous en reste tomba. A cet âge, après, la loue et nous en reste tomba. A cet âge, après, la loue et nous en reste tomba.
Car amor, non si tumbades, non si tumbade, l'enlio, car l'enlio, dal fio, car amor, non si tumbades, non si tumbade,
l'enlio, car amor, non si tumbade, l'enlio, car l'enlio, car amor, non si tumbade, l'enlio, car l'enlio, car
Silenzi de bene.
vanitat. Per son agace tan noble sulla mia vanitat. Per pure fin finalo clavar un po' musvels. Et a star a la nuet cum on tasta la svel.
Ansetat al prep d'algur ilusor est tumbat. Ansetat al prep d'algur ilusor est tumbat.
Sera féministe sur Radio Galère. Donc tout à l'heure j'ai fait une petite liste des victoires féministes de 2021, une liste qui n'est pas exhaustive, et la dernière victoire donc parlait de lutter contre l'industrie porno-criminelle et du procès historique. Donc je vais revenir un peu plus en détail sur cela puisque c'est vraiment très important. Donc c'est en effet un procès historique qui se prépare pour enfin obtenir justice pour toutes les victimes de porno-criminalité. Et donc, Oser le féminisme s'est porté partie civile au procès et luttera contre l'industrie porno-criminelle et apporte un soutien indéfectible aux victimes. Le Monde a consacré une enquête gigantesque en 4 parties sur cette réalité criminelle du porno français et donne la parole aux victimes. La première partie... le titre c'était des viols déguisés en vidéo et raconte la réalité derrière le mot pornographie. Une longue liste de violences sévèrement punies par le code pénal et par les conventions internationales. Torture, viol, abus de vulnérabilité, proxénétisme, traite des êtres humains, incitation à la haine sexiste et raciste, injures sexistes, lesbophobes et racistes. Depuis le premier signalement en février 2020, des procédures judiciaires se sont multipliées. En septembre 2020, une enquête préliminaire a été ouverte pour viol et proxénétisme contre Jackie et Michel. En novembre 2021, 4 pornos criminels ont été mis en examen pour viol aggravé, proxénétisme et traite des êtres humains. Parmi ces 4 pornos criminels, on trouve Pascal OP, que toute l'industrie pornographique connaît bien, pour les Buck Cakes qu'il organisait. Ce sont des viols collectif commis par 30 à 80 hommes contre une femme. Ainsi que Mathieu Lauré, qui a collaboré et même représenté Jackie et Michel et qui est un producteur important de Dorcel. Ils sont actuellement en détention provisoire. Les 2 hommes concernés étaient des rabatteurs chargés de piéger des femmes en se faisant passer pour des jeunes femmes sur les réseaux sociaux pour ensuite amener leurs victimes au lieu de tournage et les contraindre à des actes de violence et torture. En octobre 2021, ce sont 4 entre guillemets acteurs qui sont mis en examen pour viol dans la même affaire. Ce sont maintenant plus de 50 victimes qui ont été recensées par les services de police. Elles font preuve d'un courage incroyable d'oser parler et de témoigner des viols et de la torture que l'industrie pornocriminelle leur a infligés. Nous accompagnons certaines d'entre elles qui nous ont contactées pour leur proposer un accompagnement psychotraumatique, social ou juridique afin qu'elles ne restent plus seules. À quel degré d'inhumanité et de cécité notre société est-elle arrivée pour accepter l'impunité de l'industrie porno-criminelle ? Combien de femmes détruites faudra-t-il encore pour qu'on ouvre les yeux sur cette zone de non-droit ? Selon Le Monde, ce procès pourrait sortir pour la première fois la pornographie du flou juridique qui l'entoure, en envisageant de la traiter comme du proxénétisme, c'est-à-dire le fait de s'enrichir en exploitant des rapports sexuels tarifés. Alors, donc je vous disais, il y a 4 parties donc cette enquête du Monde. Donc la 4e partie s'intitule « La lanceuse d'alerte et les ratés judiciaire, je mettrai la référence dans la référence du podcast. Et donc, parmi les très nombreuses victimes entendues, il y a une femme qu'on appellera Soraya qui a été la première à saisir la justice sur ces viols en réunion filmée commis donc par ces pornocriminels français. sur son combat judiciaire pionnier qui a été initié en 2017. Soraya raconte « Le premier policier m'a expliqué que lui aussi, il fréquentait le milieu libertin et qu'il trouvait ça bien. Son chef m'a dit que la procureure avait été touchée par mes lettres, mais qu'elle ne pouvait rien faire. Tout le monde m'a renvoyé à l'idée qu'on ne violait pas une actrice porno. » Donc son témoignage est assez héroïque, ainsi que celui des autres victimes, et il mérite d'être massivement partagé. C'est urgent, d'autant que tous les violeurs bénéficient du système pornocriminel sous toutes ses facettes. Certains pornocriminels comptent bien se faire passer pour des féministes ou pour des humanistes épris d'éthique. Donc tous ceux qui disent que c'est un empowerment pour les femmes, qu'elles pourraient y trouver un certain pouvoir de faire du porno ou de se prostituer, ce qui est absolument aberrant. Donc on lit dans cet article, Soraya est la lanceuse d'alerte, la première plaignante de l'affaire qui secoue actuellement le milieu du porno français et à laquelle le Monde consacre une enquête en 4 volets. Fin 2016, Soraya a 23 ans et pas d'argent. Sur internet, elle croise Axel, le pseudonyme sous lequel Julien D trompe des jeunes femmes pour profiter d'elles, les violer en réalité, dans un hôtel à Reims, avant de les orienter vers le producteur et acteur pornographique Pascal Olitro, alias Pascal OP, qui gère le site French Bug Cake, et son associé Matt Addix. Soraya a subi un bug cake, cette pratique de viol en réunion extrême importée du Japon, une séance d'éjaculation collective de plusieurs dizaines d'hommes au milieu d'un hangar de Seine-Saint-Denis, puis elle a dû endurer le harcèlement de tout son quartier, et enfin une tentative d'extorsion pour racheter les vidéos des viols dont on lui avait promis qu'elles resteraient confidentielles. Donc plus loin dans cet article du Monde, on lit « Les 53 victimes entendues dans cette affaire témoignent toutes de l'état de dégradation psychologique dans lequel elles se sont trouvées plongées. Quelques-unes ont pensé au suicide. La plupart ne peuvent plus supporter qu'un homme les touche. D'autres sont incapables de nouer une relation amoureuse. J'ai fait une croix sur ma vie de femme. J'ai fait une croix sur une vie de famille, ce qui était mon rêve à la base, décrit simplement Hélène. La pornographie stigmatise les femmes et discrédite leurs récits. À Reims, la ville de résidence du recruteur Julien D, au moins 3 femmes ont porté plainte. Un cas est particulièrement intéressant, celui de Jennifer. En février 2019, elle dépose plainte contre le quadragénaire après avoir été violée, selon elle, dans un hôtel. Julien D est auditionné au commissariat pour viol, proxénétisme et recours à la prostitution. Le 2 juillet dernier, il est placé en garde à vue et reconnaît avoir utilisé le pseudonyme d'Axel Vercoutre et avoir trompé au moins une dizaine de femmes en les faisant venir à Reims dans un hôtel pour avoir des relations sexuelles avec elles. Il ne pensait pas commettre d'infraction, écrivent les policiers. Jennifer est appelée par un agent qui lui indique que l'homme a été interpellé et qu'il ne recommencera pas. Je me suis énervée et il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire de plus, que l'affaire était classée, dit-elle. En effet, à l'issue de la procédure, malgré l'incrimination de viol et le fait que le mis en cause lui-même ait reconnu les faits, le parquet décide alors d'une simple convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal de police qui le condamne à une amende de 1 000 euros pour recours à la prostitution. De savoir qu'il a continué à faire des victimes après me révulse, se désole Jennifer. Il faudra attendre le printemps 2020 pour que 2 gendarmes parisiens se saisissent du dossier et que l'affaire puisse enfin éclore. Le 13 octobre 2020, une première vague d'arrestations et de perquisitions permet la saisie des rushs du site French Bug Cake. Jusqu'à la nausée, les enquêteurs visionnent 135 heures de tournage, documentent les refus des femmes, le piétinement du consentement, les violences visibles à l'écran, tous les éléments pouvant qualifier les viols. Ce n'est plus parole contre parole, il y a désormais des preuves filmées. Les premières interpellations sèment la panique dans le porno français. Alors que Pascal Olitro est incarcéré, son associé Matt Addix est d'abord placé sous simple contrôle judiciaire. Ce n'est pas un délinquant chevronné. Il n'envisage pas que sa ligne téléphonique puisse être placée sur écoute et s'épanche auprès de ses proches. Sur sa colère, d'abord, les producteurs pour qui il travaille ont coupé les ponts avec lui. Il est furieux d'apprendre que Dorcel, le géant du secteur, son principal client, a supprimé 650 000 euros de vidéos, tous ses films de toutes les plateformes. Fin 2020, face à l'incendie médiatique d'Orcel ainsi que Jackie et Michel, le célèbre site pornographique pour lequel le producteur travaille également, lance des opérations de communication et publie des entre guillemets chartes déontologiques. À la rentrée 2021, les gendarmes s'attaquent au deuxième cercle du réseau, celui des quatre acteurs fétiches des producteurs, qu'ils interpellent tous pour viol en réunion. Être hardeur n'étant pas très rémunérateur, au maximum 150 euros le tournage, ils ont tous des métiers officiels. Joël D, 46 ans, est photographe de mode. Franck M, 48 ans, fonctionnaire. Moussa S, 44 ans, éducateur. Antoine G, 28 ans, plombier. Fin octobre, au cours d'un long travail de maïeutique mené en audition par les enquêteurs de la SR de Paris, ils semblent comprendre peu à peu les graves violences sexuelles auxquelles ils ont participé. Toujours les mêmes questions, dans le même ordre, et surtout le visionnage des images des tournages. Au bout de 30 secondes d'une séquence qui en dure le triple, Joël D, écœuré, demande à couper. « Ça vous a paru interminable ?» demande l'enquêteur. Il répond « J'imagine que quelqu'un fasse ça à ma femme, je le tuerai 15 fois. » Antoine G avoue aussi avoir été au courant, comme tout le monde dans le milieu porno, de la manipulation d'Axel, de la tromperie sur les vidéos prétendument visibles uniquement au Canada. « J'en ai été dégoûté, j'en ai même pleuré. Tout le monde savait qu'il, donc ça serait Pascal Blétro, mentait, mais personne n'a bougé le petit doigt. » S'ils commencent par minimiser les faits, les acteurs finissent souvent par s'effondrer. « C'est un viol ?» demande la gendarme à Joël D. « Oui, madame, c'est dégueulasse, c'est innommable. » Pascal nous demandait d'être toujours plus hard, de ne pas faire des vidéos de bobonne. Dans sa cellule à la santé, Pascal Olitro s'inquiète uniquement pour ses molosses. À l'expert psychologue venu l'interroger, il affirme que seul compte pour lui le sexe et ses chiens. Le reste ne m'intéresse pas. À la question de savoir si son incarcération se passe bien, il se réjouit d'avoir une douche individuelle. Il fait partie des célébrités des lieux. Les autres détenus, consommateurs de porno, ont reconnu dans les couloirs Pascal Opé, la star du French Buck Cake. Le combat continue dans cette affaire judiciaire inédite et pour l'accès de toutes les victimes de pornocriminalité à leurs droits, à des moyens dignes pour leur sécurité, leur liberté, leurs soins, leur avenir. J'espère de tout mon cœur que l'ensemble du mouvement féministe va leur donner la solidarité concrète et cohérente à laquelle elles ont droit. Not all porn est encore bien plus suspect et indéfendable que not all men. J'ai une profonde reconnaissance et une très grande admiration pour le travail harassant, pionnier et porteur de tant d'espoir dans la lutte contre toutes les violences sexuelles, portée par Lorraine Questio, Céline Pic, Misha Marston, Alissa Arabar, Claire Charles et par d'autres bénévoles et professionnels féministes qui agissent concrètement aux côtés d'enfants et d'adultes victimes de viols pornocriminels malgré l'absence de moyens, en dépit d'un niveau de difficulté vertigineux, le tout dans un contexte d'indifférence, de fuite, de déni, de lâcheté, de cynisme, de mépris de la plupart des responsables politiques. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord là avec ce que je viens de dire, et en fait ce sont les mots, ces derniers mots là, de cette profonde reconnaissance, etc., ce sont les mots de Lucie Sabot, qui en fait, voilà, a fait une espèce de synthèse sur ce quatrième volet du Monde qui sur la lanceuse d'alerte et les ratés judiciaires. Donc je mettrai toutes les références que je pourrais mettre dans le podcast. Et puis ici les retrouver. Voilà. Donc je vais peut-être faire une petite deuxième pause musicale. Voilà, avec la chanson que je cherchais tout à l'heure. Et maintenant je l'ai retrouvée. Voilà. Donc c'est Mathilde, le corps des femmes.
Leurs idéaux un peu macho nous asservir pour assouvir comme des salauds leur libido. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on lui foute jamais la paix? Est-ce que ce serait vraiment un drame si on le montrait comme il est? Servi le corps des femmes. Mmh. est là, mon corps de femme, pour qu'on ne cesse de l'emmerder, pour que toujours dans les réclames, on m'y invite à le changer. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on le voie comme un objet, si vous voulez le fond de ma pensée, mon corps est parfait comme il est. Irrésistible, la féminité irascible. Ils peuvent parler, ils peuvent juger, ils peuvent détester, cracher, quoi qu'ils en disent et quoi qu'ils fassent. Le corps des femmes, pour qu'on lui foute jamais la paix.
Merci beaucoup.
Voilà. Alors, je vais revenir donc sur le MeToo, notamment le MeToo politique et le MeToo média. Donc, le MeToo politique, il s'agit donc de 285 femmes élues ou travaillant aux côtés d'élus qui ont appelé le monde politique à donner une réponse d'ampleur aux violences sexistes et sexuelles commises par nos représentants. Cette indifférence au sexisme est une spécificité française. Notez d'ailleurs récemment la seule femme qui a été Premier ministre, Edith Cresson, entre 1991 et 1992. Lorsqu'elle avait été nommée ministre de l'Agriculture, de 1981 à 1983, une banderole des agriculteurs l'avait accueillie ainsi : Edith, on t'espère meilleur au lit qu'au ministère. Elle avait répondu « Cela tombe bien que je sois ministre de l'Agriculture parce que comme j'ai affaire à des porcs, je vais devoir m'occuper de vous. » Donc c'était, voilà, sa répartie, mais c'est elle qui à ce moment-là avait été jugée agressive. Indifférence au sexisme, mais aussi inversion de culpabilité et inversion de honte. Presque 40 ans plus tard, la démarche MeToo politique était encore beaucoup commentée comme une porte ouverte à la délation. Un mot qui renverse la charge de la honte. Les initiatrices du mouvement veulent dénoncer des comportements honteux, mais en les accusant d'être des délatrices, ce sont elles qui sont accusées de comportements honteux. Et comme cette accusation ne suffit pas à maintenir un climat sexiste dans l'opinion, leur site est attaqué. Donc, on a vu apparaître des nouveaux MeToo ces dernières semaines, celui du monde politique, celui du monde des médias, des mondes et des personnalités qui se recroisent parfois, comme c'est le cas pour Nicolas Hulot. Point commun entre le MeToo politique et le MeToo média, nous sommes dans des mondes de pouvoir propices aux violences sexuelles, à l'indulgence envers les auteurs, au mépris des victimes et au maintien du silence. Dans tous les milieux dans lesquels les hommes sont majoritaires et occupent des positions de pouvoir, nous retrouvons des violences envers les femmes. Des violences dont la palette est très 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 large, et qui sont en permanence dédramatisées. Les femmes doivent supporter un sexisme paternaliste qui les disqualifie par une ribambelle de surnoms insupportables. Elles sont aussi victimes de stratégies d'invisibilisation, comme l'a rappelé Laurence Rossignol. Les femmes politiques ont toutes vécu des moments où dès qu'une femme prenait la parole, les hommes se mettaient à parler entre eux, générant alors un brouhaha, rendant inaudibles les propos de l'oratrice. Les agressions sexistes et sexuelles qui brisent les vies des victimes sont des délits et des crimes maintenus dans le silence par les agresseurs exerçant leur pouvoir et par leurs pairs. Lorsqu'une victime parle, elle doit être écoutée. La présomption de mensonge ne doit pas peser sur elle. Oui, parce qu'effectivement, on ne parle que de présomption d'innocence de l'agresseur, mais On pourrait plutôt parler de la présomption de mensonge qui pèse sans arrêt sur les victimes. Bien souvent, tout le monde savait. Enfin, des mesures doivent être prises, sinon le silence aura bien été rompu. Mais sans réaction concrète, le message transmis est que rien ne changera. Les violences à l'encontre des femmes empêchent les femmes d'entrer dans ces mondes de pouvoir, avec comme message « tu n'es pas à ta place, tu ne le seras jamais ». Nous sommes à notre place. Ce sont les agresseurs et ceux qui se croient tout puissants qui ne le sont pas. Donc je vais revenir donc sur ce MeToo politique avec un exemple, l'exemple d'Aurélie Filippetti. Donc je vous relate ceci, c'est un des informations que je peux trouver grâce à un site qui s'appelle Les Nouvelles News et c'est écrit par Isabelle Germain. Donc ce site est un site féministe, d'actualité féministe en fait, qui lutte pour justement pour la parité. Alors, pour donner donc un exemple du MeToo politique, Aurélie Filippetti, c'est l'ancienne ministre de la Culture qui a été mise en difficulté pour avoir refusé les avances de Jérôme Cahuzac. Combien de femmes ont renoncé à leurs ambitions pour les mêmes raisons ? La parole se libère enfin depuis MeToo, certes, mais ce n'est pas encore la révolution féministe qui rendra l'accès au pouvoir plus facile pour les femmes. Des agressions sexuelles sont dénoncées aujourd'hui, mais que sont devenues les femmes qui ont tenté de dénoncer leurs agresseurs ou celles qui ont refusé des avances insistantes ? Aurélie Filippetti a raconté lundi 29 novembre sur les ondes de France Info, puis le lendemain dans l'émission C'est à vous sur France 5, comment Jérôme Cahuzac lui avait mis des bâtons dans les roues à au moins deux reprises alors qu'elle avait refusé ses avances extrêmement insistantes. D'abord lorsqu'elle était députée de Moselle. Elle faisait partie de la commission des finances à l'Assemblée nationale, présidée par Jérôme Cahuzac, alors député du Lot-et-Garonne, et président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Ma réserve parlementaire à ce moment-là, attribuée par le président de la commission, a été réduite quasiment au strict minimum. J'avais beaucoup moins que ce qu'avaient tous les autres députés de la commission. En 2012, Aurélie Filippetti devient ministre de la Culture. Jérôme Cahuzac est ministre délégué au budget. Elle raconte sur France 5 une phase de négociation du budget de son ministère qui a mal tourné à son détriment et au détriment du monde de la culture. Elle dit en avoir parlé à bien des responsables politiques, à François Hollande avant qu'il ne soit président de la République, puis lorsqu'il était en fonction, au Premier ministre de l'époque, sans que personne ne réagisse. Jérôme Cahuzac avait déjà raconté l'histoire à sa façon, prétendant avoir eu une histoire avec elle, et la faisait passer pour une folle, une hystérique, qui vivait mal leur prétendue séparation. Aurélie Filippetti a été ministre. Elle a accès à la parole publique. Mais combien de femmes ont dû renoncer à leurs ambitions, à cause d'histoires comme celle-ci, pendant que ces hommes de pouvoir continuaient leur petit bonhomme de chemin. Une injustice et un gâchis de talent énorme. Pascal Mitterrand, exemple, qui avait déposé une plainte contre Nicolas Hulot en 2008, rêvait de devenir photojournaliste. Alors qu'elle effectuait un stage à l'agence SIPA, elle a dû réaliser un reportage dans la nouvelle demeure du présentateur d'Ushuaïa en Corse, et Nicolas Hulot aurait exigé qu'elle vienne seule. Après le viol dont elle accuse l'ex-ministre, celle qui avait fait des études de photojournalisme et réussi à intégrer la plus grande agence a renoncé au métier. Aurélie Filippetti parle pour toutes celles qui ont dû renoncer. À l'époque pas si lointaine où elle était ministre, sa parole était, dit-elle, inaudible parce que les femmes avaient toujours tort dans ces histoires. Est-ce du passé ? Voilà. Donc, je vais enchaîner aussi sur le MeToo culture. Donc, le MeToo culture... Donc on a eu le MeToo politique, le MeToo dans le sport, MeToo et puis il y a aussi donc le MeToo culture, MeToo théâtre qui a été lancé en automne dernier et cela a entraîné notamment la démission du directeur du festival Mousson d'été. Donc à propos de MeToo théâtre, le 19 novembre dernier, il y a eu une manifestation à Paris qui dénonçait devant le théâtre Colline à Paris la commande d'une musique à Bertrand Cantat, jugée pour le meurtre de Marie Trintignant, ainsi que la programmation d'une mise en scène de Jean-Pierre Barrault, pour qui une plainte pour viol a été classée sans suite. Donc à propos du MeToo Culture, il y a un livre qui vient de paraître de Ren Pra qui a publié aux éditions de l'Échiquier. Le titre c'est « Exploser le plafond, précis de féminisme à l'usage du monde de la culture ». Donc pour ce livre, c'est le prolongement de deux rapports ministériels qu'elle avait fait pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans les arts du spectacle, qui avait été publié donc en 2006 et en 2019, et qui ont été actualisés en fait à l'aune des révélations qui ont secoué la société française depuis le MeToo Cinéma en 2017. Donc en 2006, Ren Pratt montrait que des hommes dirigeaient 92% des théâtres consacrés à la création dramatique. Les hommes dirigent 89% des institutions musicales, 86% des établissements d'enseignement, et que leur place dans les programmations pouvait atteindre 97% pour les compositeurs, 94% pour les chefs d'orchestre. Et enfin, qu'ils pouvaient être les auteurs de 85% des textes à l'affiche des théâtres du secteur public et y signer 78% des mises en scène. À l'heure des mouvements MeToo, elle constate que les discriminations qu'elle dénonçait sont bien légères par rapport aux violences dénoncées par les femmes. Elle explique... En 2006, on avait considéré que mon premier rapport faisait l'effet d'une bombe, tellement les inégalités entre hommes et femmes y apparaissaient criantes dans les milieux culturels. Les postes de direction étaient occupés par des hommes entre 57 et 100% selon les secteurs. En 2009, deuxième rapport, rien n'avait changé, et dans le secteur de la danse, c'était encore pire. Depuis, il y a eu des progrès. Mais je constate un effet yo-yo, c'est-à-dire que les progrès faits pour la place des femmes dans ces milieux ne sont pas durables. Voilà, donc je vous encourage aussi à aller voir de plus près ce livre. Donc je rappelle le titre « Exploser le plafond, précis de féminisme à l'usage du monde de la culture », donc sur la place des femmes totalement inégale dans le monde de la culture et de l'art, contrairement à ce qu'on pourrait quelquefois imaginer. Et du coup, je vais à ce sujet, j'espère que je vais le retrouver. J'avais récupéré un audio d'une artiste, une femme artiste, qui s'appelle Magali de Bazeille, et qui parle de cela, et qui a fait un TEDx pour parler justement du monde de l'art, parce que c'est une plasticienne. Voilà, alors il faut juste que je... Le retrouve. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Donc, c'est un TEDx qu'elle avait fait, je le mettrai en référence. Magali de Bazeille, le revers de la médaille.
Les actrices comme de vulgaires.
Bref, je travaille dans le milieu de l'art et de la culture. Un milieu qui se pense naturellement éclairé, avant-gardiste, à la pointe de la contemporanéité. Et j'y ai cru. Longtemps. En 1990, à l'École des Beaux-Arts de Paris, on était de nombreux étudiantes et quasi que des professeurs hommes. Les expositions exposaient des hommes, puis les médailles récompensaient des hommes. Mais je croyais en l'autorégulation. Surtout que quelques années avant, les Guerilla Girls avaient déjà souligné le contraste abyssal entre le nombre de femmes et d'hommes exposés par les institutions. Et vous l'avez compris, il n'y a pas eu d'autorégulation. Ça n'a quasi pas changé en 30 ans. Je lisais récemment ce rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il date de 2018 et il porte sur les arts et la culture. Alors, tous les arts, hein, c'est-à-dire les beaux-arts, mais aussi le cinéma, la littérature, la bande dessinée, l'architecture, théâtre, musique, danse. Bon, il y en a 134 pages, je vous montre seulement le tableau de synthèse. Donc on est en 2018, on a toujours 60% d'étudiantes dans les écoles arts et culture. On n'a que 40% de femmes professionnelles, toutes professions confondues. Il n'y a que 20% d'artistes femmes aidées par des fonds publics. Il n'y a que 20% d'artistes femmes programmées et 10% du coup d'artistes femmes récompensées et médaillées. 80-20. Alors pourquoi ? On l'a vu, il y a ce mythe de la figure de l'artiste homme. Il y a un autre mythe intéressant qu'évoque ce rapport, c'est le mythe du talent. Vous voyez, parce que nous, les artistes, eh ben, on serait dotés comme ça d'un génie, d'un don ou d'un talent. Hop ! Et puis la croyance, c'est que si vous avez un grand talent, eh bien, vous faites une grande carrière. Mais qui décide du talent ? Qu'est-ce qu'il y a comme idéologie et comme valeur derrière le talent pour qu'il tombe principalement sur des hommes blancs, quadras, quinquas ou sexagénaires ? Parce que ce fameux talent, si vous avez de moins bonnes conditions de travail, comme dans tous les autres milieux professionnels, ça impacte la qualité du travail et l'œuvre sera moins aboutie. Et ça, le public, il le voit. Et le rapport le quantifie très bien. Les femmes sont moins subventionnées, moins programmées et moins récompensées. Donc une réalisatrice de films réalise des films avec un budget plus bas, une directrice d'institution culturelle dirige un lieu moins doté financièrement et les œuvres d'artistes plasticiennes sont moins achetées et achetées moins chères. En gros, l'argent public continue d'être principalement redistribué aux hommes et beaucoup moins aux femmes. C'est-à-dire que c'est quand même 80-20. Il y a un autre point intéressant qu'aborde le rapport, c'est celui des horaires atypiques. Parce que le travail, le soir et le week-end, dans le milieu de l'art et la culture, eh bien, c'est la norme. Et ça, ce serait vraiment pénalisant pour les artistes, femmes et mères. Personne n'évoque le moindre souci pour les artistes hommes et pères. Mais oui, parce que dans ce milieu éclairé, comme dans tous les autres milieux, la répartition des rôles parentaux n'est pas vraiment plus équitable. Alors, bien sûr, on n'est pas dans les années 50. Hein. Les hommes, maintenant, font les courses, la cuisine, ils donnent le bain. Non, c'est mieux, c'est mieux. Mais comme dans tous les milieux, je porte cette fameuse charge mentale. C'est-à-dire que je suis obligée d'anticiper et d'organiser tout. Et je suis préposée, je ne sais pas pourquoi, mais je suis préposée à tout ce qui est scolaire, administratif et médical. Donc je suis préposée à l'achat des fournitures scolaires, l'étiquetage des fringues pour la colonie de vacances, les rendez-vous chez l'orthophoniste, l'orthoptiste, l'orthodontiste, l'inscription au sport, certif médical compris. La collecte de matériaux pour le projet 4 saisons de la maîtresse. Hein ? Ah, ça vous dit quelque chose. Vous aussi, vous l'avez eu, les 4 saisons. Ouais. Trier les fringues trop petites aussi, voyez ? Ou par exemple, organiser les anniversaires, programmer les prochaines vacances avant que celles d'avant soient déjà terminées. Tout ça, quoi. J'arrête là. Mais il y a un truc qui me dérange souvent, c'est que, voyez par exemple, une infirmière, bah, elle a aussi des horaires atypiques. Peut-être même beaucoup plus que moi, fréquemment. Mais elle est courageuse. Sa vocation à elle, elle est légitime. Elle est dévouée aux autres. Mais combien de fois, moi, en tant qu'artiste, j'ai entendu « Ah ouais, mais toi, c'est ta passion. » Avec ce petit sous-entendu culpabilisant, bah, « Te plains pas de tes difficultés à gérer tes horaires atypiques, hein, t'as choisi d'être mère et artiste et d'être dévouée à ton art. » Donc comme quoi, c'est pas très légitime d'être mère et artiste en même temps. Je suis donc artiste, femme, mère, célibataire, c'est assez fréquent dans le milieu de l'art, et j'ai 2 enfants. Je précise ça parce que dans ce milieu, 2, c'est beaucoup, et ça surprend. Et j'ai la 50aine qui approche. Autant vous dire que j'ai pas le profil du poste, quoi. J'ai un profil, mais alors pas du tout rassurant, voire qui serait déjà classé sans suite. Alors qu'on pourrait me voir comme incarnant le mythe de l'héroïne contemporaine. Il y a 10 ans, à la naissance de sa fille, mon amie artiste Jeanne Susplugas a perdu 2 de ses galeries. En septembre dernier, j'étais à Berlin. Je discutais avec une commissaire d'exposition que je venais de rencontrer, on ne se connaissait vraiment pas du tout. Et dans le flot de la discussion comme ça, elle me sort, mais comme une évidence, « If we have kids, we're fucked up anyway. » Si on a des enfants, on est foutus de toute façon. Hein. Non, mais en prenant du recul, c'est quand même assez dingue, non ? C'est super violent, et en plus, c'est plus compliqué que ça, cette histoire de maternité, de parentalité. Il suffirait même pas de dire « Bon, ben, je fais pas d'enfants, je vais faire une grande carrière d'homme et rester dans l'histoire de l'art. » Non, Il y a un revers de la médaille. Il y a même plusieurs revers. Il y a une historienne de l'art, Maria Trasforini, qui a une hypothèse intéressante. Elle a étudié les conditions de vie des graveuses anglaises et américaines du XIXe siècle, qui étaient très renommées à l'époque et dont le nom a disparu. Elle a constaté que ces graveuses étaient plus célibataires que leurs collègues masculins, que si elles étaient mariées, elles avaient moins d'enfants et qu'elles étaient veuves plus tôt. Et à leur mort, il n'y a pas eu de descendants pour conserver et transmettre la mémoire de leur travail. Et leurs noms sont tombés dans l'oubli. Un autre exemple plus récent, milieu du XXe siècle, les années 50, le célèbre artiste américain Jackson Pollock, connu pour sa technique du dripping qui consistait à faire couler de l'encre, de la peinture sur sa toile. Il reconnaît s'être inspiré de l'artiste Jeannette Sobel, dont il avait vu l'étoile en 1944 dans une galerie à New York. Et l'historienne de l'art, Béatrice Joyeux-Prunel, le formule très bien, c'est quelque chose à peu près comme ça, elle dit « On n'était pas prêt à ce que le mythe de l'avant-garde américaine puisse être incarné par une mère de 4 enfants immigrés d'origine ukrainienne. On n'était pas prêt. » Pourquoi c'est important, en fait, qu'il y ait toujours plus de femmes artistes et qu'elles soient surtout plus reconnues? Pourquoi c'est important? Parce qu'après tout, peut-être que ce fonctionnement interne du milieu de l'art, de la culture, spectacle vivant, peut-être que ce fonctionnement interne, il est très loin de vos préoccupations. Mais tant qu'il y aura majoritairement des artistes hommes, on verra toujours les mêmes représentations stéréotypées, véhiculées, les mêmes rapports de domination. Et ça sera toujours plus compliqué pour une femme, comme pour un homme, de se sentir légitime et libre de faire d'autres choix. Il me faudrait une autre conférence, en fait, pour simplement lister toutes les représentations stéréotypées. Mais je garderai ce soir qu'un exemple. Implicitement, un homme, s'il travaille dans le même domaine que sa compagne, il gagne plus qu'elle et a plus de reconnaissance professionnelle. J'ai plusieurs amis hommes qui avouent faire la vaisselle, pas de souci. Organiser, accompagner une sortie scolaire, c'est même valorisant. Mais imaginez un jour, gagner moins qu'elle en travaillant dans le même domaine, ça, ce serait mais ingérable. On n'est toujours pas prêt de voir au cinéma, comme dans la vraie vie, la chirurgienne avec l'infirmier, de voir la commissaire de police avec l'adjoint de sécurité, et encore moins de voir la chef d'orchestre avec le second violon. On n'est toujours pas prêt. Au printemps dernier, je déjeunais avec mon père. Je lui évoquais ce rapport du Haut Conseil à l'égalité que je vous ai présenté au tout début. Et un petit peu comme tout le monde, bah oui, il les connaît ces inégalités, c'est bon, on en entend parler. Et un peu comme tout le monde, je voyais bien qu'il ne mesurait pas l'ampleur de ces inégalités. 80-20%. Je lui propose de lui envoyer le rapport. Et il me répond, non, moi ce soir, dans mon télérama, je compte les films réalisés par les femmes. Et le lendemain, j'ai reçu un mail dans lequel il m'écrivait. J'ai compté, mais tu as raison, c'est massif. Alors, je vous propose tout simplement de compter. Comptez les femmes dans les expositions collectives, comptez les expositions monographiques de femmes, comptez les femmes réalisatrices et pas que comédiennes. Comptez aussi les comédiennes quadra, quinca et sexagénaire. Comptez les chansons écrites par des femmes et pas seulement chantées par des femmes. Comptez les groupes de rock, de hard ou de punk féminins. Comptez les femmes chefs d'orchestre. Comptez les femmes poètes et autrices que vous avez lues. Comptez les femmes politiques. Comptez les femmes sur Wikipédia. Et puis comptez aussi les femmes récompensées avec une médaille, une coupe, voire un trophée. Pourquoi compter? Parce que compter, c'est pas seulement réduire les choses complexes de la vie en de vulgaires chiffres. Compter, c'est aussi émancipateur. Et comme le dit si bien l'économiste Florence Janicatrice, tout ce qui n'est pas compté finit par ne plus compter. Alors oui, c'est possible de simplement compter pour rendre les femmes visibles. Oui, c'est possible de compter et n'hésitez pas à commenter et à partager. Merci.
Voilà, donc c'était Magali de Bazeille lors d'un TEDx. Très, très intéressant. Donc, je vais enchaîner par rapport au cinéma. Il se trouve qu'au cinéma, les actrices et les femmes ne vieillissent pas. Elles n'ont pas le droit de vieillir et elles disparaissent des écrans. Il y a aussi, c'est ce que révèlent les chiffres du CNC. À mesure qu'elles vieillissent, les actrices tournent de moins en moins. Les rôles se tarissent. La part des femmes employées comme actrices dans des longs métrages fond drastiquement à partir de 30 ans. Selon des chiffres dévoilés par le CNC, de 25 à 29 ans, on trouve beaucoup de femmes. Des jeunes femmes sont plus nombreuses que leurs comparses masculins dans les films qui sont sortis de 2009 à 2018. Mais la proportion des femmes chute drastiquement dans les films français. Ensuite, les personnages trentenaires sont majoritairement des hommes, 58% contre 42% des femmes. Et de 50 à 59 ans, tenez-vous bien, les femmes, alors là, la dégringolade ne représente plus que 30% des interprètes sur les plateaux. Donc l'âge d'or pour tourner au cinéma pour les femmes, pour les actrices, ne dure que 8 ans, alors que l'âge d'or pour les hommes est beaucoup plus long, il dure 28 ans. Inégalité aussi au niveau des salaires, actrices réalisatrices sont moins bien rémunérées. Le CNC a calculé l'écart de rémunération entre les acteurs et les actrices. Il est de moins de 10% avant 50 ans, mais il augmente ensuite, car la rémunération des actrices décroche avec l'âge, pas celle des acteurs. Côté réalisatrice, l'écart salarial reste très important. Elles sont payées 37% de moins que les réalisateurs. Donc ce sont des statistiques qui ont été publiées par le CNC dans le cadre des assises de la parité organisées par le collectif 50-50 pour faire avancer le sujet dans l'industrie du cinéma. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, comme dans les bonnes nouvelles, je vous disais tout à l'heure, heureusement il y a des bonnes nouvelles, la part des réalisatrices a augmenté. Mais par contre, ce qu'on peut noter, c'est qu'elle augmente, mais avec des films à moindre budget. En ressort une image contrastée de la situation. Le nombre de films réalisés par des femmes a progressé de 50% entre 2010 et 2019. On peut s'en réjouir puisque 52 films avaient une femme co-réalisatrice en 2010, 78, dont 9 avec une femme co-réalisatrice en 2019. La part des femmes progresse, mais on reste bien loin de celle des hommes, puisque cette année-là, 223 films ont été réalisés par des hommes. Donc 223 films pour les hommes, 78 pour les femmes. Cela indique donc que l'on voit sans doute émerger une nouvelle génération de réalisatrices. C'est ce qu'analyse le directeur des études du CNC, Benoît Danard. Ces films restent toutefois comme des plus petites productions que ceux des hommes, avec des budgets 40% plus faibles. La part des femmes progresse dans la plupart des métiers du secteur culturel et médias, etc., mais même les plus techniques, comme électricien ou régisseur, bien qu'elles restent très minoritaires, a-t-il ajouté. Voilà. Donc, en tout cas, pour revenir sur l'agisme, il est très, très fort donc, au cinéma. Les écarts sont souvent énormes et complètement banalisés. C'est la norme, en fait, dans les films français. Donc les hommes, pour jouer un homme de 50 ans, eh bien on prend un homme de 50 ans. Par contre, pour jouer une femme de 50 ans ou de 40 ans, on va prendre une femme de 25 ans. Donc pour habituer le regard des femmes en fait, à avoir une femme, un physique de 25 ans à la place d'une femme de 40 ans. Aussi pour pratiquement tous les films, il y a des différences énormes donc d'âge, même pour des films où ça n'a absolument pas lieu d'être, au contraire, comme par exemple le film sur Napoléon. Alors que Joséphine avait 6 ans de plus que Napoléon, et bien pour jouer cela, ils ont pris un homme beaucoup plus jeune que la différence d'âge, en fait, qui n'était que de 6 ans, était augmentée d'une vingtaine d'années, quoi. Voilà, donc l'agisme, je pourrais vous citer une citation sur la double norme en matière de vieillissement que je trouve intéressant, de Suzanne Sontag, d'un livre qu'elle a écrit, Le double standard de l'âge, en 1997. Voilà ce qu'elle dit. Les femmes ont une autre possibilité. Elles peuvent aspirer à être sages et pas seulement jolies. Compétentes et pas seulement serviables. Fortes et pas seulement gracieuses. Ambitieuses pour elles-mêmes et pas seulement pour les hommes et les enfants. Elles peuvent prendre de l'âge, naturellement et sans honte, en protestant activement et en désobéissant ainsi à la double norme sexuelle de notre société en matière de vieillissement. Au lieu d'être des filles et de garder une apparence jeune le plus longtemps possible pour se transformer de façon humiliante en femmes d'un certain âge, elles peuvent devenir bien plutôt des femmes et rester des adultes actives en profitant de la longue carrière érotique dont les femmes sont capables bien plus longtemps. Les femmes devraient laisser leur visage montrer la vie qu'elles ont vécue. Les femmes devraient dire la vérité. Donc effectivement, donc l'agisme, c'est un sujet que je trouve intéressant. Et donc l'invisibilisation des femmes de 50 ans au cinéma et dans tous les milieux est un signe éclatant de la misogynie de notre société. Voilà, je regarde le temps qui me reste. C'est un article de Titiou Lecoq que je trouve aussi très intéressant, donc que je vais vous lire maintenant. Voilà ce qu'elle dit. Les femmes ne vieillissent pas, elles disparaissent. Dans ces conditions, comment se projeter dans l'avenir? Où sont les vieilles? Où sont leurs corps? J'ai 41 ans, donc c'est Titiou Lecoq. Quel modèle la société me propose-t-elle? Des femmes plus jeunes, de 5 ans, de 10 ans, ou des femmes qui ont carrément la moitié de mon âge? Partout, tout le temps, dans la pub, dans les fictions, les séries, à la télé, au ciné. Comme si je devais me projeter en arrière. Non, je ne peux pas prendre pour modèle des femmes de 20 ans. D'ailleurs, peut-être suis-je trop vieille pour avoir des modèles. Mais je ne cherche pas un modèle à copier. Je ne vais pas coller des posters de stars au-dessus de mon lit. J'aimerais simplement, dans ma vie au quotidien, être confrontée à des images vers lesquelles projeter mon avenir. Quel est mon avenir de femme de 40 ans? La société me dit qu'il n'y en a pas, hormis une invisibilité croissante. Je ne vais pas vieillir, je vais disparaître, je vais non exister. Comment apprivoiser le vieillissement si mon corps à venir n'existe nulle part? La société m'incite à vivre dans le déni le plus complet. Mais voilà que cette semaine, un miracle a eu lieu. Le corps d'une femme de 59 ans était là, présent, vibrant, vivant. Sophie Fontanelle, qui avait déjà libéré les cheveux blancs, a posé nue pour le magazine Elle, et je ne suis pas la seule à qui ça fait du bien. C'était l'occasion de la sortie de son livre « Capitale de la douceur », dans lequel elle raconte son corps à travers son expérience de nudisme sur une île dédiée. Certaines vont peut-être trouver que Sophie Fontanelle présente malgré tout un corps en adéquation avec les standards actuels de minceur. Mais il y a quelque temps, j'ai eu la surprise de voir s'afficher dans l'espace public une autre photo révolutionnaire, un corps de femme réaliste et âgée, photo retouchée ceci étant, celle d'une publicité pour Darjeeling. Y apparaît en sous-vêtements la mannequin Caroline Ida qui avait déjà posé pour la lingerie de Maison Louvre. Quand la commission AFA Tunnel de la comédienne de 50 ans réclame que davantage de personnages féminins de cet âge-là soient visibles au cinéma, ce n'est pas pour le plaisir de jouer les emmerdeuses. C'est pour enrichir notre imaginaire collectif. Nous nous appauvrissons sous l'effet de l'agisme. Le cinéma est représentatif de notre société tout entière. Évidemment, il existe des contre-exemples comme Catherine Deneuve. Mais les chiffres sont là. Sur l'ensemble des films français de 2016, seulement 6% des rôles étaient attribués à des actrices de plus de 50 ans. Pour rappel, dans la population française, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. Le compte n'est pas bon. Des objets sexuels, oui, mais fertiles. C'est même pire, comme le dit l'actrice Jacqueline Ricciardi, citée par Anne-Claire Adé dans le journal Culture en Jeu. Il est courant de voir un acteur de 50 ans avec pour compagne une femme de 35 ans qui ont des enfants qui sont adolescents ou jeunes adultes. Alors qu'une mère de jeune adulte a généralement 50 ans, on ne sait plus ce que c'est qu'une femme de 50 ans. Ainsi, non seulement on n'écrit pas de rôle pour elle, mais quand par hasard l'histoire pourrait les faire exister, on embauche une actrice plus jeune. Dernier exemple en date dans Kid Bag, film de Ridley Scott sur Napoléon, voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure. L'empereur est joué par Joaquin Phoenix, de 46 ans, et Joséphine par Jodie Comer, de 28 ans. Donc un grand écart entre les deux, alors qu'en réalité, Joséphine avait 6 ans de plus que Bonaparte. Voilà, c'est ça. Donc en fait, pour une fois, la femme avait 6 ans de plus en vérité historique. Et là, on a carrément l'inverse avec grand écart, donc complètement aberrant. Et aussi, il faut savoir que ça, c'est vraiment presque tous les films qui sortent et que l'on voit tout le temps, tous les jours, quoi, en fait. Les écarts d'âge hommes beaucoup plus vieux que les femmes, c'est vraiment la normalisation, même pas, c'est le sujet. Par contre, inversement, quand une femme est plus vieille qu'un homme dans un film, alors là, oui, ça devient le sujet. Il y a des films dont c'est carrément le titre, quoi. 20 ans d'écart, c'est un film qui parlait de ça, alors qu'en fait, la femme était pas tellement plus âgée que l'homme. Donc là, c'est un film français. Sinon, il y a Mrs. Robinson, un fameux film, où la femme était censée être une vieille, alors qu'en fait, dans le film, elle n'avait que quelques années, 6 ans, je crois, de plus que l'acteur. Et donc, pour jouer une vieille, voilà, on prend une pas vieille, en fait, du tout. Mais bon, c'est une vieille. C'est terrible, elle a quelques années de plus. Ouh là là. Voilà, donc je reprends l'article donc, de Titiou Lecoq. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas un problème de femmes de 40, de 50 ou de 60 ans. C'est un problème qui concerne toutes les femmes. Pourquoi les femmes disparaissent-elles ? Pourquoi nos bornes de vie publiques et médiatiques sont-elles limitées aux âges de la fertilité ? Les femmes n'existent-elles encore que par leur capacité à perpétuer l'espèce ? Cachez de ma vie cette vieille que je ne saurais voir. Notre société ne voit en nous que des objets sexuels, et des objets sexuels à condition d'être fertiles. Pas d'objet ou de sujet sexuel chez la femme ménopausée. Nous ne servons, nous ne méritons notre place qu'à condition d'être aptes à procréer. L'invisibilisation des femmes est le signe plus éclatant de l'extraordinaire misogynie de notre société. C'est un immense scandale qui ne scandalise personne. Cela devrait alerter les jeunes femmes, pas seulement concernant leur avenir, mais eut égard à leur présent. Parce que le traitement des femmes plus vieilles par la société pose la question de ce qu'est une femme pour le corps social. Or, il semblerait que notre valeur sociale ne soit indexée que sur votre fertilité sexuelle. Il ne faut pas s'étonner qu'une société qui considère que les femmes ont une date de péremption les traite toutes comme des pots de yaourt. Dans le très beau et très complet livre qui vient de sortir « Qui a peur des vieilles ?», Marie Charelle interroge toutes les facettes de cette invisibilisation. Elle propose notamment une réflexion intéressante sur la liberté qui peut en découler, allant même jusqu'à présenter la vieillesse comme un âge queer. Puisque l'identité des femmes est socialement définie par la fécondité et la possible maternité, que se passe-t-il lorsque les deux appartiennent au passé ? Un espace des possibles s'entrouvre. Les règles d'autrefois se dissolvent, un flou s'instaure. Ce qui conduit à l'invisibilisation des vieilles est aussi ce qui leur ouvre une voie vers la liberté. À l'abri des regards, des normes et des dictates liés au désir masculin façon vieille école, elles peuvent se réinventer à leur guise. Pour les femmes en particulier, le dernier âge représente une délivrance. Toute leur vie soumise à leur mari, dévouée à leurs enfants, elles peuvent enfin se soucier d'elles-mêmes. C'est ce qu'a écrit Simone de Beauvoir. L'autrice rappelle ensuite que cette libération s'accompagne souvent, malgré tout, d'une chute dramatique des revenus pour les femmes liées au chômage et ou à la retraite. Une alternative est possible, un monde est à conquérir. Heureusement, je suis entourée de femmes plus âgées qui me montrent la voie et j'espère faire de même pour les plus jeunes, dans une chaîne de femmes que nous inventons pour exister en dehors des représentations médiatiques classiques. Parce qu'on veut voir davantage de femmes de plus de 50 ans, je me permets de vous proposer quelques liens. J'ai piscine avec Simone, qui traite de ces questions. Donc c'est un site que je mettrai en référence aussi. Et il y a un compte Instagram, Ménopause Stories, et elle recommande aussi un film qui s'appelle Aurore de Blandine Lenoir. Voilà, le temps est dépassé, je vous laisse, je vous dis merci et à la semaine prochaine.
Nous qui sommes impatients.